Rendez-vous avec l'histoire, notre rendez-vous mensuel sur Radio Royan. Ronald Dubcher, professeur des universités, spécialiste d'histoire sociale contemporaine, nous propose dans cette quatrième conversation de nous intéresser à la ruralité. Notez que Ronald Dubcher est également fondateur des rencontres cinématographiques de Saint-Julien-en-Vercors, caméra en campagne, consacrée à la représentation de la ruralité dans les campagnes. Après l'image du paysan dans l'imaginaire social, c'est sur le travailleur étranger dans les campagnes françaises que nous nous penchons. D'où viennent les travailleurs étrangers? Pourquoi partent-ils de chez eux? Pourquoi choisissent-ils la France? Quel accueil leur est réservé? Quelle forme de solidarité développent-ils entre eux? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre durant cette heure d'émission en compagnie de Ronald Dubcher. Bonjour Ronald.
Bonjour.
Ronald Dubcher, aujourd'hui vous allez nous parler des travailleurs étrangers dans les campagnes. Alors effectivement, souvent le travailleur étranger est associé à un cliché, celui de n'être qu'un ouvrier ou un artisan. Mais il a aussi un rôle à jouer, en tout cas il a joué un rôle et il joue encore un rôle dans les campagnes. Quel est ce rôle? Est-il vraiment important? Mais avant de s'intéresser vraiment à cette question qui sera transversale au fur et à mesure de cette entrevue, d'où viennent-ils? Combien sont-ils ces travailleurs étrangers dans les campagnes françaises?
Eh bien, tout d'abord, pour répondre à votre première interrogation, effectivement, les travailleurs dans l'agriculture ont joué un très grand rôle, souvent insoupçonnés, parce qu'ils ont une faible visibilité, ils sont épars. Mais c'est un phénomène beaucoup plus ancien que les travailleurs de l'industrie, puisque déjà à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle, on en retrouve notamment des Italiens qui viennent travailler dans les forêts de Corse. Donc, premier point, c'est quelque chose de très ancien. Alors, d'où viennent-ils, me demandez-vous? Eh bien, on pourrait établir une sorte de chronologie qui n'est pas rigoureuse, mais qui est une tendance, dirais-je, de fond. D'abord des Italiens, des Belges, des Suisses, des Espagnols, puis des Polonais, et Polonais-Slovaques, des Portugais, des Marocains, et tout récemment, depuis les années 1960-70, une émigration venue de l'Europe du Nord, c'est-à-dire en particulier des Hollandais. Mais c'est tout à fait dans une autre configuration que ceux dont nous allons parler. Il est difficile d'établir le nombre de ces étrangers qui sont venus, parce que les recensements ne sont pas toujours très exacts, bien tenus. Ce que l'on peut dire, voilà quelques exemples ponctuels. Les Italiens, dans les années 1900, viennent pour l'essentiel 75% du Piémont et de Lombardie, et le phénomène se maintient et s'élargit entre les deux guerres. 84% des Italiens viennent du nord, de l'Italie, le Frioul, la Vénétie, l'Émilie. En revanche, en 1950-1960, ce sont plus du tout les mêmes, ce sont des méridionaux qui viennent de la Sicile, de la Campanie ou des Pouilles. Les Belges, pour leur part, viennent des Flandres. Les Espagnols viennent des zones méditerranéennes de l'Espagne, la région de Valence, de Murcie, puis de la Galicie. Et après la guerre de 14, ils viennent de l'Andalousie, de l'Aragon. Les Polonais viennent de Poméranie, de Basse-Silésie. Les Portugais viennent de la région montagneuse de Trás-os-Montes, au Portugal. Les Marocains viennent de la région d'Agadir, mais surtout de la région de l'Atlas. Alors, globalement, on peut quand même considérer que beaucoup d'entre eux viennent de régions montagnardes, hein, si on excepte, évidemment, par exemple, les Belges.
Mais ce serait le point commun.
Ce que l'on peut dire aussi, c'est que ils viennent souvent travailler comme ouvriers agricoles, et le regard des autochtones, c'est celui, bon, de catégorie très modeste. Eh bien, ce qu'il faut revenir là-dessus, parce que pour beaucoup d'entre eux, il s'agit de petits propriétaires, de micro et petits propriétaires, et qui passent pendant un temps, ils sont obligés, on le verra, d'être journaliers, mais qui espèrent retrouver évidemment leur ancien statut social. Donc il faut bien souligner ce phénomène, que ce ne sont pas en quelque sorte, entre guillemets, les derniers des derniers, mais qu'on a là déjà des petits exploitants, des petits paysans. Bon. Alors on peut se poser la question de leur nombre.
Oui, combien sont-ils alors ?
Alors, difficile parce que les statistiques ne sont pas toujours très précises. On peut donner quelques chiffres, ça donne un ordre de grandeur. En 1891, on dénotait 200 000 étrangers dans l'agriculture. En 1914, on estimait que 25% des étrangers venus en France travaillaient dans l'agriculture. 1936, on estime qu'ils sont 280 000 dans l'agriculture, mais à côté de cela, il faut tenir compte du rythme annuel parce qu'il y a des sorties, des entrées constantes. Bon, mais quand on note les entrées, et ça ne veut pas dire que les gens resteront, bien sûr, entre 1919 et 1939, on a un rythme de 60 000 par année. En 1970, on est à 140 000 par année. Donc, vous voyez que c'est un chiffre considérable. Si l'on veut prendre le nombre des exploitants proprement dit, on a un chiffre dont on est à peu près sûr en 1946, où l'on a un peu plus de 43 000 exploitants, avec une petite majorité de propriétaires, suivis par des fermiers et des métayers. Encore un chiffre, et je ne vais pas vous accabler avec les chiffres, en 1964, on estimait qu'il y avait 100 000 Espagnols qui se trouvaient en France comme riziculteurs, fraisiculteurs, vendangeurs, betteraviers, et qui trouvaient évidemment tout un avantage parce que la peseta était extrêmement faible, et c'est donc très intéressant pour eux.
Vous écoutez Ronald Dubcher sur Radio Royan et les rendez-vous avec l'histoire. Pourquoi ces étrangers partent-ils de leur campagne ou de leur montagne ?
Eh bien, les étrangers ne font que faire ce qu'ont fait les Français avant eux, c'est-à-dire qu'on retrouve exactement les mêmes raisons, les mêmes motifs. Je n'en donnerai qu'un seul exemple. Les maçons limousins qui venaient travailler régulièrement à Paris au moment des transformations considérables du Second Empire et qui étaient des petits exploitants qui restaient quelques mois à Paris, qui revenaient chez eux. Donc le phénomène, ce type de migration, n'est pas du tout quelque chose d'original en ce qui concerne les étrangers. Les Français ont connu la même chose. Alors pourquoi partent-ils ces gens-là ? Eh bien, leur démarche s'inscrit dans un cycle de vie professionnelle. On peut penser aux colporteurs, par exemple, qui sont très nombreux en France, comme il y en avait en Italie, et qui font plusieurs voyages. On peut penser aux ramoneurs savoyards, les petits ramoneurs savoyards qui venaient à Paris. On peut penser aussi, pour les Italiens, à ceux qu'on appelle les Scaldini, qui viennent des Apennins et qui viennent à Paris pour s'occuper des chaudières, et cela a duré jusqu'en 1960, et il restait plusieurs mois. Donc, on a une tradition. On a une tradition migrante qui fonctionne comme une sorte de mémoire collective dans le village et entre les générations. Le fils succède au père et après, le père qui a travaillé reprend l'exploitation. Le fils, lui, travaille dans l'usine ou dans le métier, l'activité secondaire, et remplace par la suite son père. Donc, on a des cycles et qui sont vraiment de longue durée. Alors, pourquoi on part ? Eh bien, je dirais qu'il y a des raisons structurelles, des raisons conjoncturelles. Raisons structurelles, c'est, je dirais, d'abord le facteur démographique et économique qui joue, bien que par la suite on l'ait un peu, on est un peu revenu dessus, mais il est quand même conséquent. C'est tout simplement le problème de la relation qui existe entre la taille de l'exploitation et le nombre de bras, le nombre d'enfants qu'on a sur l'exploitation. À partir du moment où la surface n'est pas assez grande, il faut bien qu'on parte d'une façon ou d'une autre. Et cela est lié, la taille de l'exploitation aussi très souvent, à l'inégale répartition du sol. En effet, avant 14 déjà, vous aviez dans le Mezzogiorno italien ce qu'on appelait des latifondia, d'énormes propriétés, comme d'ailleurs dans le Latium, mais souvent sous-exploitées, et qui étaient travaillées par ce qu'on appelait les braccianti, c'est-à-dire des ouvriers journaliers. Et puis vous aviez également la même chose en Andalousie, de très très grandes, des milliers d'hectares d'exploitation qui étaient travaillées par des ouvriers journaliers misérables qu'on appelait les braceros. Un chiffre qui montre combien à travers l'Europe il y avait une inégalité de la répartition des terres. En Slovaquie, en 1921, 1000 propriétaires possédaient 2/5 du sol, 50% des propriétaires n'en possédaient que 6%. Donc on a, vous voyez, une sorte d'oligarchie foncière, qui sont souvent des propriétaires absentéistes. Encore que dans la région de Vénitie et Émilie-Romagne, on trouve de très gros fermiers utilisant un matériel moderne, pratiquant une culture de type intensif, mais utilisant aussi de nombreux bras. Bref, il n'y a pas quand même beaucoup de terres, même si entre les deux guerres et à cause de la révolution bolchevique où on a craint la subversion, on a voulu donner quelques compensations et satisfactions aux paysans en faisant des réformes agraires dans les pays d'Europe de l'Est notamment, mais c'était très timide et de surcroît, ça n'a fait que augmenter le morcellement, la parcellisation du sol, en définitive avec des propriétés de plus en plus petites. Donc il y a là quand même un véritable problème entre la concentration du sol, une population souvent nombreuse dans certaines régions et des familles nombreuses, avec des petites propriétés. Alors, immigration aussi conjoncturelle. Bien entendu, d'abord il faut songer à l'immigration de type politique. La question du fascisme en Italie, où dans la vallée du Pô, s'était développé déjà avant la guerre de 1914 des coopératives à connotation socialiste très forte. On parlait déjà de coopératives rouges. Lorsque le fascisme arrive au début des années 20, coopératives sont incendiées, brûlées, les gens sont matraqués, et donc il y en a qui partent, évidemment, ça se comprend. Et puis, le franquisme, par la suite, en Espagne, avec des centaines de milliers de gens qui ont fui le franquisme au moment de la guerre civile. Il faudrait pas pour autant oublier des facteurs personnels. Facteurs personnels, eh bien, les tensions familiales, tensions intrafamiliales qui existent, c'est évident, et peut-être même pour des raisons d'héritage, enfin, entre l'aîné, par exemple, auquel on donnera l'exploitation, le cadet, il faudra qu'il trouve autre chose. Bon, il y a de l'acrimonie, et même les rapports avec le père, qui souvent... et un pater familias, au sens strict du terme, pourrait-on dire. Donc, c'est une raison aussi de vouloir s'en aller. Enfin, certains ont évoqué l'ennui. On s'ennuie, on est dans un monde clos, un monde fermé, un monde oppressant, et on cherche autre chose, on cherche l'aventure, on cherche à vivre mieux. Voilà, me semble-t-il, les raisons qui peuvent expliquer... le départ.
Donc des raisons vraiment multiples, mais pourquoi ces étrangers choisissent la France ?
Rendez-vous avec l'histoire, Ronald Dubcher, le travailleur étranger dans les campagnes françaises.
Eh bien, la France a succédé à l'Amérique. Le rêve français a succédé à l'American Dream. Beaucoup de populations d'Europe, notamment d'Europe centrale et d'Europe du Sud, aux Italiens, partaient depuis déjà la fin du 19e siècle, début du 20e, vers les États-Unis. Le pays de cocaïne, l'Amérique, le petit vendeur de journaux qui devient milliardaire, c'était un mythe qui était extrêmement fort. Et cela, évidemment, a joué beaucoup. C'est fini maintenant. Après la Première Guerre mondiale, l'Amérique se ferme. C'est l'isolationnisme. On retrouve d'ailleurs, au passage, une parenthèse, que l'Amérique telle que la veut Trump actuellement, c'est celle qui ressemble à l'Amérique des années 20. Fermeture, isolationnisme, puritanisme, c'est tout à fait étonnant. Je ferme ma parenthèse. Donc, c'est fini pour les États-Unis. L'Argentine, qui était également un grand pays d'immigration, notamment pour les Italiens, s'est terminée aussi. L'Allemagne a été repartagée, une partie de l'Allemagne, de la Poméranie, où les travailleurs des Polonais allaient travailler, ne peuvent plus y aller, et donc ça a été donné à la Pologne. Donc en Allemagne aussi, il n'y a plus de travail. Et à côté de ça, en France, vous avez un bas prix des terres. Et ça a toujours existé, même maintenant, s'il y a eu une forte hausse sur les terres agricoles, elles sont nettement moins onéreuses que, par exemple, dans les Pays-Bas. Donc un bas prix des terres qui, évidemment, est attractif. Ajoutez à cela des régions déprimées sur le plan du peuplement, c'est notamment le cas du Sud-Ouest. Le Sud-Ouest, le Lot-et-Garonne, le Gers, le Tarn-et-Garonne, où l'on a pratiqué, c'est pas toujours la vérité, mais pour aller vite, je dirais la politique de l'enfant unique, et où les conditions de travail, les façons culturales sont quand même très traditionnelles, où les rendements sont faibles. Bon, c'est une région qui se dépeuple et une région importante d'exode rural. Donc il y a cette opportunité. Il faut enfin songer à la guerre de 14. Les zones, l'Aisne par exemple, la Somme, ont été, les Ardennes ont été des zones de combat. Et là, tout est dévasté, il y a à refaire. Et puis il y a des populations qui sont parties, qui ne reviennent plus. Donc il y a des possibilités. On peut ajouter à cela le rôle de la rumeur. Les gens, les premiers à installer la parentèle ou les gens du village qui vous indiquent déjà quels sont les bons lieux où on peut aller, quelle est la bonne ferme, tous ces éléments jouent. Et pour les clandestins, on peut indiquer déjà, parce qu'il y en a toujours eu, bien entendu, les passeurs et puis les bons passages. Hein. Donc ça, ce sont des raisons auxquelles s'ajoute l'imaginaire. La France, un pays de rêve, le pays des libertés. Il y a des affiches qui sont placardées un peu partout, dans les villes, en Pologne par exemple. Il y a même des curés en chaire qui font de la propagande pour venir en France en disant « vous trouverez sûrement du travail et des bonnes conditions d'existence ». Il faut ajouter à cela aussi la politique du gouvernement français, qui, selon les époques, a été favorable, parce qu'on a besoin de main-d'œuvre après la guerre, la saignée de 14, parce qu'il y a des terres vacantes et qu'il faut cultiver. Donc, on assouplit la législation concernant la venue en France d'étrangers. Et alors, comment part-on, finalement, pour dire un mot là-dessus? Eh bien, tout simplement, avec ses pieds, si j'ose dire. On sait qu'à tel endroit, quelqu'un de la famille vous a dit qu'il y avait des possibilités, donc on y va. Ou alors on va avec un contrat qui a été signé avec un exploitant. Il y a des agences privées même qui se sont spécialisées dans le recrutement, notamment en Espagne. Ou alors ce sont des organismes qui prennent en charge les candidats au départ. Par la suite, il y a le gouvernement français qui signe des accords avec des gouvernements étrangers, avec la Pologne par exemple en 1919, la Tchécoslovaquie en 1920, l'Espagne en 1950. Il y a par exemple des trains spéciaux qui partent d'Espagne pour aller dans la Somme, à Amiens, et qui sont répartis ensuite dans les fermes pour l'exploitation des betteraves, arrachage des betteraves, etc., qui viennent donc d'Espagne. Voilà donc, si vous voulez, les moyens de partir, avec le fait que tout dépend aussi de, comme je disais, de la politique du gouvernement, parce qu'il y a eu des moments où on a vraiment fermé. Les moments en 1893, par exemple, il y avait une crise économique, on a demandé aux gens de s'inscrire. Dès qu'ils arrivent dans un village, ils doivent être inscrits. En 1917, il y a eu la guerre, on donne une carte d'identité spéciale pour les travailleurs de l'agriculture, ils peuvent pas faire autre chose, ils peuvent pas aller ailleurs. Et puis dans les années 30, où il y a eu la crise économique, hein, ou en tout cas les séquelles de la crise économique, eh bien, on renforce encore la législation, l'étranger doit se rendre au village dans les 3 jours qui arrivent, dire quand il part, et en 1935, 1939, même il y a eu les lois d'Aladi encore plus dures, où même pour changer d'exploitation à l'intérieur de la commune, il fallait faire la déclaration à la mairie. Hein. Donc extrêmement surveillé, et tout ça freine, ou au contraire, quand on ouvre les vannes un peu, accélère les migrations et l'avenir des étrangers. Hein. Le phénomène n'est pas nouveau, dirais-je.
Et tous ces étrangers qui arrivent en France, est-ce qu'ils se destinent à un type d'activité agricole particulière? Est-ce qu'ils gardent la même que celle qu'ils avaient en partant de leur pays? Est-ce que ça, on le sait? Est-ce qu'il y a une typologie type?
On peut arriver effectivement à définir un certain profil des migrants en raison de leur type d'activité. Ce que je voudrais dire au départ quand même, c'est qu'au fondement de tout départ, il y a un projet familial. Un projet familial, toutes les composantes de la famille sont parties prenantes et en somme on se tient aux deux bouts de la chaîne. Hein. Sinon ça ne peut pas fonctionner. Bien entendu, ce sont les hommes qui sont majoritaires. Hein. Les hommes seuls. Ou alors en groupe, on part du même village, un système d'interconnaissance, c'est pas propre à l'Italie d'ailleurs ça, ce sont surtout les jeunes qui partent en groupe. Hein. Et on va à destination qu'on s'était promise de rejoindre. Et s'il y a une petite exploitation, comme je le disais, ça arrive quand même assez souvent, eh bien les femmes restent au village. Et c'est elles qui doivent avoir la responsabilité de l'exploitation, hein, qui doivent s'occuper de tout puisque le mari n'est pas là. Et on les appelle en Italie les veuves blanches. Au Portugal, dans le même cas, on les appelle les veuves de vivants. Un beau terme, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon. En dehors des hommes, eh bien, vous avez le couple qui part, l'homme et la femme, qui partent ensemble. Vous avez aussi bien la famille entière, qui peut s'adjoindre des collatéraux, des frères, des cousins, des oncles. On en a notamment avec les charbonniers, dans les familles de charbonniers ou de bûcherons. Vous avez des femmes et des enfants. Par exemple, c'est souvent le cas pour la cueillette. Hein. Une enquête de 1912 qui a été faite dans l'Ardèche montre que pour la cueillette des olives, eh bien, il y avait entre 5 et 6 000 femmes qui ensuite passer à la cueillette des violettes et de la rose et du jasmin, et pour finir la fleur d'oranger, et là ils étaient à peu près 8 000. Ce sont quand même des chiffres conséquents. Enfin, vous avez les femmes seules, c'est un cas d'espèce, mais qui n'a pas été négligeable, il s'agit en l'occurrence des Polonaises. Dans les années 1920-1930, alors on pense toujours aux Polonais qui sont venus travailler dans les mines, mais il y a d'une part des Polonais qui ont travaillé dans l'agriculture et surtout beaucoup de femmes polonaises qui ont travaillé dans l'agriculture, dans les régions bien entendu nord, bassin parisien, mais aussi jusqu'au centre, l'Indre-et-Loire par exemple, où on en a un certain nombre. Et ce qui est intéressant à noter, c'est leur jeunesse, parce que 75% d'entre elles ont entre 16 et 25 ans. Et donc partir à des centaines et centaines de kilomètres toutes seules, sans connaître la langue, sans connaître les codes, on imagine combien la vie peut être difficile. Alors, est-ce qu'on peut parler de spécialité pour les uns et pour les autres? Oui, dans une certaine mesure. Et si on veut faire un parallèle avec l'industrie où on dit il y a le PDG, il y a l'OS, on peut dire il y a des ouvriers qualifiés et des ouvriers non qualifiés. Ouvriers qualifiés, ce sont les Flamands. Les Flamands sont considérés comme des moissonneurs d'élite. Ils viennent depuis le 19e siècle faire les moissons dans le bassin parisien. Et ce sont également des spécialistes des plantes sarclées. Le lin, la chicorée, ils introduisent la betterave aussi. Hein. et ils introduisent même le houblon dans le Cambrésis. Donc on les considère un peu comme des initiateurs et des instructeurs. À ce niveau également de compétences, on peut placer les Suisses. On oublie souvent les Suisses, hein, mais ils ont joué un rôle qu'il ne faut pas négliger. Eh bien, ces Suisses, ce sont des techniciens. La plupart d'entre eux ont suivi une école professionnelle. Bon, c'est pas l'agro, hein, mais enfin, une école professionnelle quand même. Et donc, ils peuvent être, avec leur spécialité, ils peuvent être vachés, beurriers, fromagers. Et souvent, on les trouve aussi comme régisseurs. Alors, de l'autre côté, vous avez les OS, si je puis dire, de l'agriculture. Ben, ce sont les Espagnols, notamment, par exemple, dans l'Aude. Ben, on leur fait accomplir des travaux de terrassement, des travaux de curetage, des fossés, effectuer des trous pour les plantations de cèpes, donc défrichement, défoncement, voilà ce que font ce que peuvent faire les Espagnols. Les Polonais, pour leur part, sont de véritables prolétaires, hein, aussi bien les hommes que les femmes, à tout faire, on les emploie dans différentes fonctions. Et les Italiens, dirais-je, eh bien, ils sont un peu entre les deux, notamment les femmes auxquelles on reconnaît leur savoir-faire et leur adresse, notamment pour les cultures fruitières et maraîchères.
Et tous ces étrangers, tous ces travailleurs étrangers dans les campagnes françaises, restent-ils longtemps? Est-ce qu'ils partent chez eux? Quelle est la durée moyenne dans ces jours?
Eh bien, le problème pour les travailleurs étrangers de l'agriculture, c'est, je dirais, il y a un binôme. Hein, le binôme, c'est partir, rester, partir, revenir, et l'essentiel de leur projet. Bon, il y en a qui restent, bien entendu, hein, mais ce n'est pas la majorité, et ça, il faut bien le souligner. Alors, on a évidemment, la temporalité varie selon le type de travail. On a les saisonniers, c'est pas très long, c'est à peine quelques semaines pour la cueillette, la vendange, des diverses façons culturales. On a les temporaires, ceux qu'on appelle les temporaires, qui viennent pour quelques mois. Alors, par exemple, curetage, drainage des fossés. Surtout les bûcherons et les charbonniers, et là on a des cas dans la région, dans le Vercors, hein, ils sont venus dans les Alpes, et dans le Vercors en particulier, un grand nombre. On a les domestiques qui sont gagés à l'année, en général, 9 mois ou 1 an, et puis on a ceux qui accomplissent ce qu'on appelle le périple, c'est-à-dire ils partent pour un certain temps, ils peuvent partir 1 ou 2 ans, ils reviennent chez eux quelques mois, ils repartent, et ça dure sur le cycle professionnel. Hein. C'est ce qu'on appelle le périple.
Cette charbonnière-là, elle est quoi? Elle est petite, moyenne ou grande?
Petite, très petite même. Ouais. Celle-là, elle fait 3 tonnes de bois.
Guérin Locatelli, charbonnier.
Alors, vous savez que la quantité du charbon, il faut 400 kg de bois pour faire 100 kg de charbon.
400 kg de bois,
c'est ouais. Voilà. Et nous, celle qu'on faisait là, les plus petites, on faisait 10 tonnes de charbon, mais on en faisait des jolies. Hein.
Ouais, ouais.
Ça représentait quelque chose. D'ailleurs, il y en a une qui est en photo là-bas, qui a mon frère dessus.
On va les regarder.
Et celle-là, je vous dirais, elle a fait 16 tonnes de charbon.
Il a la forêt pour les eaux et le ciel pour fenêtre. Ses enfants poussent à poids sous le chêne et le maître.
Fête de la charbonnière. Rancurel.
Le charbon cuira et s'endormira au ciel avec la fumée.
Guérine Locatelli, charbonnier.
Nous, on travaillait à façon. Un exploitant, un type qui faisait faire du charbon à des charbonniers comme nous, et nous, on le faisait aux 100 kilos. Il vous montait à la forêt, il vous disait, tu coupes ce que tu pourras dans cette parcelle. Alors nous, on allait au plus vite, et on avait aux 100 kilos de charbon. C'est vrai qu'il n'y avait pas à nous surveiller. Puis ce charbon, comme Gauthier là-bas, mais ça montait à Ripérou, là-haut, à Boselle. Ça montait tout là-haut,
oui.
Dans le temps. Maintenant, je ne sais pas si ça existe toujours.
Et ça, il est monté quoi alors? Des chaudières des...
Ben, c'était pour l'acier fin.
Là, on est toujours à Saint-Julien et on est devant la fin de la charbonnière, hein, on peut dire comme ça. C'est les dernières braises.
Ça y est, tout est cavé. Le cavage est fini, les sacs sont faits, il n'y a plus rien.
Alors, je vais vous demander de vous présenter.
Alors, Stéphane Cabrol, voilà, donc président de l'association À Travers Corps, qui a été montée il y a 6 mois, avec une douzaine de personnes et plus 20 à 30 bénévoles derrière qui nous ont aidés depuis le début à la construction de la cabane, comme depuis le début en forêt, donc tout ce qui est abattage, construction de la charbonnière. Et puis après, les 2 semaines sur place aussi, donc il a fallu du monde pour surveiller, nourrir la charbonnière, tout ce qu'il y a à faire autour d'une charbonnière. En fait, en 98, à Rancurel, il y a 2 anciens charbonniers, avec Bob ici, le collègue là, qui ont eu l'idée d'en refaire une pour le village. Et donc c'est vrai que c'est parti de là, on les a aidés pendant 3 semaines sur le projet. Donc c'était Émile et Guérine Locatelli à l'époque, qui aujourd'hui sont morts, mais qui nous ont rendu un fier service. Aujourd'hui, ouais, c'est vrai qu'on peut les remercier parce que effectivement, c'est grâce à cette expérience 98 qu'on a pu renouveler l'expérience donc, et faire appel à de nouveaux anciens charbonniers, j'allais dire, des gens avec qui on n'avait pas forcément travaillé en 98, qui sont venus avec nous aider à la construction de la charbonnière. Du coup, ils ont eux aussi du coup allumé la charbonnière, donc c'est bien. On voulait que les anciens charbonniers allument la charbonnière, c'est ce qui s'est passé. Et après, ils nous ont donné encore des conseils sur tout ce qui est, je dirais, la surveillance de la charbonnière, le nourrissage, le cavage, etc., etc.
Alors, j'insiste bien sur le fait que le retour, au moins au départ, le retour pour ces immigrants, je préfère appeler finalement les exilés de l'agriculture, parce qu'on parle des expatriés pour ceux qui ont une profession qualifiée, qui vont à l'étranger, et on parle d'immigrés qui a pris une connotation négative. C'est d'ailleurs dommage, et donc on pourrait parler peut-être des exilés.
Vous écoutez Ronald Dupcher sur Radio Royan et les rendez-vous avec l'histoire.
Donc, on peut dire que le retour, c'est essentiel dans le projet initial. Hein. Au bout de combien de temps? Alors, ça, c'est évidemment les circonstances qui le diront. Hein. Retour, évidemment, temporaire, ça dépend du calendrier agricole local aussi, bien sûr. Retour temporaire pour les bûcherons. On a par exemple le cas dans le Vercors d'un bûcheron de la région de Vergame qui a fait 52 séjours avec son fils. L'installation longue, plus longue, eh bien, c'est souvent un faible enracinement. On a des études qui ont été faites sur des agriculteurs venus des Abruzzes. Entre les deux guerres, 60% sont revenus chez eux. Dans les années 80, un sondage a été fait aussi par une chercheuse italienne, historienne, et qui a montré que 23% des gens qu'elle interrogeait voulaient tout de suite le retour immédiat s'ils avaient pu. Et puis les autres, ça s'étale dans le temps, voire au moment de la retraite. Ce qui montre aussi l'intérêt, la volonté du retour, c'est l'épargne qui est faite par les immigrants. On envoie régulièrement de l'argent au pays. Alors bien sûr, quand la famille subsiste et reste là-bas, il faut envoyer de l'argent, c'est évident. Mais aussi dans l'idée de constituer un petit patrimoine pour pouvoir acheter, si on n'a pas de terre, en acheter, et si on en a, pour en acquérir davantage. Et les sommes sont conséquentes. Et pour une immigration assez récente qui est celle des Marocains, on constate que l'argent envoyé par les Marocains, 59% va dans le secteur agricole. Donc on voit bien cette idée d'investissement. En même temps, des liens se maintiennent avec le pays natal. Ils se maintiennent, et entre les deux guerres, c'est très sensible. Il y a, en ce qui concerne les Italiens, les Polonais, voire les Belges, un encadrement religieux qui est très important. Vous avez des aumôniers de ces pays-là qui sont rattachés à des missions catholiques et qui entretiennent les liens avec le pays, qui entretient même l'amour du pays natal. Pour ne pas parler aussi, bien sûr, de la correspondance. Hein, on maintient aussi des liens de correspondance. Dernier point qui montre enfin que ces gens-là pensent au retour, eh bien, c'est que la plupart se font enterrer après dans leur pays d'origine. J'ai fait des études ici dans la région et puis dans le département de l'Oise. J'ai vu très peu de tombes avec des patronymes d'origine polonaise ou italienne. Et ça, c'est quand même caractéristique, cette volonté de revenir au départ. Alors, il y a ceux, bien sûr, qui ont l'idée du retour, mais il y a aussi l'idée de la promotion sur place.
Oui, il y en a quand même qui partent en souhaitant rester.
Voilà. Alors, la promotion sur place, eh bien, c'est quand l'occasion s'est présentée, ou ceux qui avaient déjà un projet, ceux qui savaient, par exemple, qu'il y avait des métairies abandonnées dans le sud-ouest et où ils pouvaient trouver une place tout à fait, bon, à des taux intéressants, en somme, ou s'y prenaient un fermage. Vous avez aussi ceux qui ont l'idée de dire, je vais quand même, bon, je suis pendant 10 ans journalier, étant moi-même un petit exploitant peut-être chez moi, je vais essayer de me faire, c'est vrai pour la viticulture, avoir une petite vigne, bon, à force d'économie, à force de courage, et on voit effectivement, bon, des gens à acquérir de la terre, bon, c'est pas, ça va pas loin, hein, mais en temps, ça, évidemment, ça vous attache définitivement à la région. Très souvent, on voit aussi les promotions qui seront par étapes, c'est assez classique, on est d'abord métayer, et puis ensuite, quand on le peut, on devient fermier, c'est beaucoup plus intéressant parce que vous payez votre bail une fois pour toutes et vous faites ce que vous voulez, le métayer, vous êtes contraint toujours par le propriétaire. Donc ça se fait par étapes, une promotion possible par étapes. Enfin, il y a le mariage avec une autochtone, il ne faut pas non plus le négliger. Donc voilà autant de facteurs qui expliquent de vouloir rester. Mais à contrario, on reste aussi pour d'autres raisons. On reste parce qu'on a connu l'échec. Et du coup, on ne veut pas revenir, on a joué un peu les pharaons en partant, en disant « je vais faire fortune », entre guillemets, et il y a eu échec sur échec, ça a mal tourné pour diverses raisons, donc on ne veut pas revenir au pays, on est un peu honteux, on reste sur place. Mais surtout, il y a le problème de l'acculturation des enfants. Les enfants qui sont venus en très bas âge, ou qui sont nés en France, bon, n'ont plus grand-chose au commun avec le pays, voire la culture, de leur patrie d'origine. Et donc, ils veulent rester avec leurs copains, leur mode de vie, etc. et tout. Et les parents, ben, ils cèdent, hein, très souvent aux enfants. Ils restent avec les enfants. Et ça, c'est un facteur qui joue beaucoup.
Vous avez parlé de mariage, notamment, comme l'un des facteurs pour rester dans le pays d'accueil. Donc, ben, on peut imaginer que certaines populations sont plutôt accueillantes. Quel est l'accueil, d'une manière générale, de la population française à leur rencontre ?
Eh bien, on peut dire que c'est difficile à cerner, que c'est très variable selon la conjoncture, selon le moment politique, selon les individus eux-mêmes. On ne peut pas arriver à établir une règle générale. Disons que, là encore, on a une espèce de contradiction entre la nécessité de recourir à des émigrés, pour les raisons que j'ai indiquées, et un rejet en même temps. Donc, utilité d'un côté, danger de l'autre. Et je voudrais citer là ce que disait un économiste, professeur d'agronomie, Henri Ittier, en 1928, très connu, qui évoquait la reprise des terres incultes du sud-ouest qui avaient été abandonnées, les métairies, par des Italiens. Ces Italiens, aux prises avec les pires difficultés et uniquement avec une main-d'œuvre familiale, ont remis en valeur des terres abandonnées. C'est une grande leçon qui se dégage de cet exemple. Mais il ajoute aussitôt, néanmoins, il se forme dans le sud-ouest des centres d'Italiens qui ont la prétention d'avoir leurs écoles, leurs ministres du culte et qui sont surveillés par le service d'immigration italien. Des îlots d'Italiens ne vont-ils pas présenter à un certain moment un véritable danger pour notre pays ? Bref, on trouve là le communautarisme qui est le véritable serpent de mer et un peu la tarte à la crème. Alors, sur le plan de l'empathie, il y a d'une part des besoins pressants de main-d'œuvre et donc pour parler familièrement, il faut faire avec. Donc on passe sur des inconvénients. Il y a aussi toute cette idéologie agrarienne qui fait que l'homme de la terre a une place un peu à part dans la société. Le paysan, donc, c'est celui qui est enraciné profondément, qui a des attaches charnelles. Le cultivateur italien, ben, il a les mêmes qualités que le paysan français. Il est solide, il est endurant, il est tenace, il est économe, enfin, tout ce que l'on voudra. Et donc, l'immigrant de la terre, c'est le bon immigrant, celui-là. Là, on en veut bien. Alors, on constate, ici et là, eh bien, il y a une aide de la population locale lorsque les nouveaux arrivent, une aide à l'installation. On prête du matériel, par exemple, hein, des choses comme ça. Ce qui est bien aussi, et ce qui montre le degré d'intégration de l'immigrant, c'est quand il participe à la coopérative locale ou au syndicat local, ou aux sociétés sportives. Alors, dans le sud-ouest, par exemple, il y a des jeunes d'origine italienne qui étaient des éléments de pointe du rugby. Alors là, c'était le délire autour de la famille, hein. Là, il n'y avait pas de problème. Bon, donc, voilà des facteurs, bien sûr, qui jouent. On a l'exemple aussi d'un charretier polonais dans la Marne qui, le dimanche, va prendre l'apéritif au café du coin avec ses copains français qui jouent avec eux à la belote. Voilà des éléments qui montrent l'intégration. Donc, dans la mesure, si vous voulez, on adopte les mœurs locales, où on ne se fait pas trop remarquer, parce que ça aussi, il faut avoir un profil quand même assez bas, il faut s'effacer, bien, tout fonctionne très bien. De ce côté-là, donc, les cas varient d'une région à l'autre et selon les individus. Mais, malgré tout, la xénophobie reste récurrente. Il y a une persistance de stéréotypes qui sont liés d'ailleurs au statut social des individus, parce que pour beaucoup, les immigrés, c'est des gens qui sont à la base de la société, qui viennent travailler comme domestiques, journaliers, que sais-je d'autre. Hein. Alors, sur ce problème de la xénophobie, il faut d'abord déjà dire que dans les campagnes, nous sommes dans une société d'interconnaissance. Et par conséquent, il y a déjà une certaine méfiance à l'égard de l'étranger. L'étranger, c'est souvent celui qui n'est pas très loin de chez vous. Hein. Bon. Donc, on a une extranéité qui est souvent stigmatisée et on a le cliché d'une population misérable. Ceux qui viennent, ce sont des misérables. C'est des gens qui ont quitté leur pays, bon, des gens modestes, des pauvres, des déguignés, et qui sont donc potentiellement dangereuses. Hein. On ne sait jamais ce qu'ils vont faire. Là encore, je voudrais citer un journal qui s'appelle La Patrie, qui est un journal de droite nationaliste, en août, un article d'août 1896. Il parle des Italiens. Ils arrivent tels des sauterelles. Ils sont sales, tristes, loqueteux, tribune entière émigrant vers le nord. Puis ils s'installent entre eux, demeure étrangers au peuple qui les accueille, travaillant à prix réduit et jouant tour à tour de l'accordéon et du couteau. Donc la vision tout à fait stigmatisante, ramenée à l'animalité d'ailleurs, hein, ça c'est quelque chose d'assez classique, et de gens bon qui sont de mauvaise compagnie, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quelles que soient les populations, jusqu'à nos jours, c'est un thème qui est récurrent. Quelles que soient les populations. Il y a eu des histoires en 1924-25 dans le nord de la France, il y a une bande des Polonais, des bandits polonais, on l'appelait la bande des bandits polonais, avec des assassinats même, et puis qui détroussaient des gens, et ça a fait la une des journaux, et toute la population polonaise a été stigmatisée à partir de ces quelques cas. De même, au moment du putsch franquiste, quand il y a eu la débâcle de l'armée espagnole, il y a eu une sorte d'archétype de l'indésirable. Bon, heureusement, un certain nombre de communes les ont bien accueillis, mais pour beaucoup, c'était les indésirables. des gens subversifs, parce qu'on les taxait de rouges, hein, les républicains c'était tous des rouges, on traitait d'espagnols de merde, hein, ça c'était, excusez l'expression, mais une formule de l'époque, de même que les Italiens dans le midi de la France ou en Corse étaient traités de babi, paraît que ça vient de crapaud, bon l'étymologie est incertaine, bon c'était une injure qui était extrêmement forte. Retournez chez vous, vous mangez le pain des Français. Enfin, on connaît tout ce type de stéréotypes et d'injures qui sont jetées à la face des étrangers. Il y avait, par exemple, dans l'Agenais, raconte une femme, une autochtone, dans l'Agenais en 1930, ben, il y avait un café pour les Italiens, ils n'allaient pas dans le café des Français, qui était très mal vu, donc ils avaient leur propre café. On retrouvera par la suite cela en Corse avec la population d'origine maghrébine. On retrouve exactement ces mêmes phénomènes. Et bien entendu, quand il y a les problèmes politiques qui se posent, les tensions s'accroissent. Ça s'est passé au moment, évidemment, de l'agression de l'Italie, la guerre de l'Italie, le fameux coup de poignard dans le dos des Italiens lors de la guerre de 40, où il y a eu des manifestations extrêmement hostiles contre les Italiens. On les a taxés de collaborateurs avec les Allemands. C'est vrai que quelques-uns d'entre eux, puisqu'il y avait l'alliance entre l'Italie et les Allemands, et que dans le sud-ouest notamment, il y avait un certain nombre d'Italiens qui appartenaient au mouvement fasciste et qui ne s'en cachaient pas du tout, qui faisaient même de la propagande fasciste. Donc tout ça s'est très mal vécu, le trafic, etc. Des traces en sont restées. Bon, ce qu'on reprochait aussi aux étrangers, c'est qu'ils accaparaient la terre de la France. Or, on constate que il n'en est rien d'après les statistiques. Entre 1911 et 14, par exemple, eh bien 8% des transactions étaient le fait d'étrangers. Et en 1945, hein, sur les 49 000 exploitants que j'avais cités, ils possédaient 1 million d'hectares sur à peu près 46 millions. Hein, vous voyez. Mais on dit ils prennent la terre. Ils peuvent la payer plus cher, notamment pour les Belges, ils n'hésitent pas à payer plus cher, et même quand ils se mettent en fermage, ils acceptent des fermages beaucoup plus lourds, donc ce qui empêche à de jeunes agriculteurs français de s'établir, donc il y a une véritable acrimonie à l'égard des étrangers. Quand du côté ouvrier, cette fois-ci, des ouvriers français, des ouvriers agricoles, eh bien, on pourrait dire presque, schématisant, que l'ouvrier agricole étranger, c'est l'ennemi. La formule de Gambetta qui parlait le cléricalisme, voilà l'ennemi, pour reprendre cette fameuse formule. Et il y a là une contradiction majeure, parce qu'il y a quelques syndicats ouvriers agricoles, mais peu nombreux, hein, peu nombreux par rapport aux ouvriers agricoles, pour les raisons qu'on dit, dispersion, le niveau de conscience politique pas très élevé. Mais une contradiction, alors, entre l'internationalisme prolétarien, hein, prolétaires de tous les pays, unissez-vous, donc il faut les accueillir, mais en même temps, protection du travail national. Et lors du premier congrès des travailleurs agricoles de l'agriculture en 1920, eh bien, on reprend tous les slogans, tous les stéréotypes contre les travailleurs étrangers qui acceptent des salaires plus bas, qui sont des jaunes, qui, au moment des grèves, casse les grèves et travaille pour le patronat, etc. et tout. Bon. Et puis alors, ça va changer selon les périodes, mais d'une façon générale, il y a quand même une certaine xénophobie.
Donc xénophilie à certaines époques selon certains contextes, xénophobie à l'encontre des travailleurs étrangers, vous l'avez bien dit. Est-ce que du coup une solidarité sociale se crée entre les étrangers peut-être face à cette xénophobie? Est-ce qu'il y a une solidarité communautaire?
Mais quand on regarde un peu sur le long terme, on constate que le statut social l'emporte sur le statut national. Vous avez une élite agricole, bon, pas très nombreuse, mais une élite agricole qui a un capital économique, technique, culturel, qui pratique la comptabilité en partie double, qui suivent les mercuriales, et qui a une conception marchande de l'agriculture, hein. Et qui faisait du productivisme avant la lettre. Cela, on le trouve chez les Italiens, notamment des gros propriétaires ou des gros fermiers italiens dans le sud-ouest de la France entre les deux guerres. Vous avez la même chose avec de gros fermiers belges dans le nord de la France qui utilisent un matériel intensif, utilisent beaucoup d'engrais, et justement les agriculteurs du coin les accusent d'appauvrir la terre, enfin de saccager la terre. Groupe très peu nombreux mais très puissant et qui s'entendent finalement très bien entre eux, hein. C'est-à-dire que le social l'emporte sur le national. On les retrouve dans les mêmes organismes. Lorsqu'il y a des grèves, ils font un front commun contre les grévistes et les ouvriers agricoles. Donc, il y a solidarité de classe qui l'emporte. Bon, en dessous de cette catégorie, vous avez une démocratie rurale, quelque chose de très large, une couche moyenne d'étrangers qui ont entre 20 et 40 hectares, qu'ils soient propriétaires et exploitants, exploitation familiale, qu'on trouve surtout dans le midi méditerranéen. En dessous, vous avez ce qu'on pourrait appeler des gagnes petits qui ont 2-3 hectares, qui végètent, qui vivotent et qui sont souvent, ils sont dans des mauvaises terres qu'ils sont obligés de défricher et ils sont obligés de travailler souvent chez un autre propriétaire du coin. Donc le coût social est élevé, la vie de famille n'est pas rose. Et puis à la base, vous avez les ouvriers agricoles qui sont un prolétariat, hein, qui vit dans de très mauvaises conditions, qu'on trouve dans les régions de cultures peuplantes, c'est-à-dire le betterave, vigne, enfin toutes les cultures où on a besoin d'une main d'œuvre. Hein. Les plus chanceux arrivent à passer métayer aux propriétaires. Enfin, vous avez un prolétariat de carrière. On peut faire carrière dans le prolétariat en étant à la base, homme à toute main, puis charretier, voire conducteur de tracteur après, sans compter les bergers et les métayers. Et alors, en définitive, à l'heure actuelle, je dirais, c'est le triomphe des saisonniers. Hein, à partir des années, en effet, 60-70, c'est le triomphe du machinisme. Machine à récolter les treilleuses électriques, machine à récolter les pommes de terre, machine à récolter les betteraves. On a beaucoup moins besoin de main-d'œuvre. Et s'il faut de la main-d'œuvre, c'est à court terme, à flux tendu pour les récoltes, vendanges, récoltes fruitières, etc. Donc, maintenant, pratiquement, ce n'est plus que ce genre de main-d'œuvre qui existe et dont le nombre a fortement diminué. Alors, on peut dire que le problème de l'intégration, puisque c'est un problème qui revient toujours de façon récurrente, il n'existe plus dans l'économie agricole. Le rôle historique, en somme, joué par les travailleurs agricoles me semble achevé à l'heure actuelle. Ce n'est pas pour autant la fin des étrangers dans les campagnes, parce que d'une part, il y a une petite minorité d'entrepreneurs de culture, on peut dire, hein, avec de gros capitaux qu'on a en Normandie, qu'on a dans le centre de la France, notamment des Hollandais, des Allemands, quelquefois aussi des Anglais, qui pratiquent un tout autre type de culture. Et puis on a surtout des étrangers qui viennent s'installer en France, dans les campagnes, parce qu'ils trouvent que la vie est attrayante et agréable, et qui ne sont pas pour autant des travailleurs agricoles.
Et c'est ainsi que s'achève ce nouveau rendez-vous avec l'histoire autour de la thématique des travailleurs étrangers dans les campagnes. Nous étions en compagnie de Ronald Dupcher. Ronald, merci.
Merci beaucoup à vous.
Et à bientôt. Au revoir.
À bientôt.
Pour compléter ce rendez-vous avec l'histoire consacrée aux travailleurs étrangers dans les campagnes françaises, vous pouvez vous plonger dans la lecture de plusieurs ouvrages, celui notamment de Philippe Anus, « Je suis né charbonnier dans le Vercors », paru dans « Études et chroniques du parc naturel régional du Vercors » en 2000, mais également celui de Yol Manzoni, « D'Italie et de France, récit de migrants en Dauphiné, 1920 ». 1960, paru aux presses universitaires de Grenoble en 2001, ou encore celui de Janine Ponty, qui a rédigé « L'immigration dans les textes en France, 1789-2002 », paru en 2004 aux éditions Belin. Immigré d'Italie et paysan de France, 1920-1944, écrit par Laure Tellière et paru en 2016 aux presses universitaires du Mirail, peut également vous éclairer. Et enfin, je ne saurais que trop vous conseiller l'ouvrage de Ronald Dupcher, « L'immigration dans les campagnes françaises au 19e-20e siècle », paru en 2005 aux éditions Odile Jacob. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission ainsi que tous nos autres rendez-vous avec l'histoire en podcast sur le site de radioroyan.fr.
ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission d'une série de trois consacrée à la Russie. Nous débuterons ces entretiens en compagnie de Ronel Dubcher avec la chute de l'Empire tsariste. Mm-hmm.